Bon, la chemise des bananes est en studio, les jerseys de Demidov également, tout va bien, la coupe également, et on rejoint en plus notre bon ami David Etegui. David, comment vas-tu?
Comment ça va, David?
Ça va les amis, comment ça va vous de votre côté? On est content.
Écoute, la ville est en feu cette semaine avec Demidov qui débarque, là, David. Je me rappelle pas de la dernière fois qu'on a vu un tel engouement pour le Canadien de Montréal.
Stéphane, le Centre Bell va exploser lundi.
Ça va être fou.
Les gens vont arriver de bonne heure hein, pour le voir faire son tour de glace.
Ben oui, c'est sûr. Mais David, pour commencer, comment tu as réagi à cette nouvelle-là, David?
Ben moi, écoute, genre, je regardais vite fait sur nos ondes, Pierre Dorion parlait un peu. C'est drôle parce que j'ai eu exactement la même réaction que lui. Quand j'ai appris la nouvelle, la première chose que je me suis dit, c'est combien les Canadiens ont payé pour le sortir de là? C'est la première chose que je me suis dit. Et c'était exactement la même réaction que Pierre Dorion a eue. Et je ne veux pas m'étaler là-dessus, c'est pas le but de l'exercice, mais c'est la première question que je me suis posée. Par la suite, je me suis dit, bon, maintenant la réalité, je suis content du dénouement. Je suis content pour lui, c'est un jeune, il est débarrassé de ce poids de pouvoir venir. Je suis content pour les fans des Canadiens de Montréal. Et tu sais, tu te dis toujours, mais qu'est-ce qui peut, tout peut mal arriver, là. Avec, en KHL, là, tout peut arriver. Donc, tant qu'il n'est pas signé et libéré, tu te dis que tout peut arriver. Donc, c'était une libération. Je pense que j'étais content pour lui, pour les fans de Montréal. Et je me suis dit, la réaction que j'ai eue, c'est, je suis les Canadiens depuis tout près de 46 ans à peu près. 45-46 ans. Le dernier joueur qui a été repêché avec autant de talent pour les Canadiens de Montréal, c'est vraiment Guy Lafleur. Faites l'exercice comme vous voulez. C'est vraiment Guy Lafleur. Et le hype qu'il y avait dans le temps de Guy Lafleur, c'était similaire. Il s'en venait de Québec, tout le monde, on le voulait. On savait qu'il allait être un gars hyper talentueux. Il n'y en a pas eu des comme ça depuis. On a eu un petit hype au niveau d'attaquant quand Sakukovi est arrivé. On s'est dit, bon, mais ça n'avait rien à voir.
Non, t'as raison.
Rien à voir. Et là, ce que je dis aux gens de Montréal, là, écoutez-moi bien, là. Vous avez attendu 45 ans pour vivre ce moment. Vous risquez d'attendre un autre 15 à 20 ans avant de le revivre. Pourquoi? Parce que les Canadiens ne seront pas dans le bas-fond pour repêcher un gars comme Demidov dans les prochains 15 ans. Donc, profitez du moment. Et Demidov, en réalité, les amis, c'est un choix de numéro 1 overall. C'est pas un gars de numéro 5. Donc, avant que les Canadiens soient les derniers de la Ligue nationale, ça va être long.
Ouais,
donc, profitez du moment. Je suis super excité, lui. Très content pour Montréal.
Ça a été aussi, je ne veux pas dire un cadeau, mais on en a parlé souvent, tu sais, qu'il puisse glisser jusqu'à numéro 5. Ça a été le Canadien qui a été béni des dieux. David, tu as parlé des montants et tout le reste. Tu sais, on parle souvent des coulisses, puis les gens adorent quand tu nous amènes vraiment dans les coulisses, OK? Explique-nous un peu comment ça se passe dans les négociations, quand l'agent est là, Dan Milstein qui est là aussi pour Demidov, l'équipe de la KHL, le Canadien de Montréal. Comment ça s'est, d'après toi, déroulé dans la chronologie de voir à quel point ça peut prendre du temps? Je sais que c'est du cas par cas, mais de nous amener, de nous accompagner dans comment ça se passe.
Moi, je pense, premièrement, il faut que les gens comprennent. La question, elle est super pertinente. Et je vais mettre un peu nos auditeurs dans le contexte. Et je me mets là, je les rentre à l'intérieur, comment que ça se passe un peu cette affaire-là. Premièrement, vous devez comprendre qu'un gars comme Dan Milstein, là, ça n'existe pas vraiment. Dan, là, il est l'exception à la règle. Normalement, comment est-ce que ça fonctionne? Les agents, que ce soit Pat Brisson, Jerry Johansson, moi, quand je travaille, la plupart des agents, là, ce n'est pas eux qui ont les contacts directs en KHL. On a toujours des sous-agents qui sont en poste en Europe et principalement dans la KHL, qui, eux, ont des contacts avec les équipes et qui, eux, négocient d'entrée de jeu avec ces équipes-là pour l'agence. Donc ça, il faut que les gens comprennent ça. C'est rare que tu vas pas un Jerry Johnson négocier avec le Dynamo, là. Ça arrive pas comme ça. On a des gens placés sur le marché. Ça, c'est un. Marcin, il est l'exception à la règle. C'est un gars qui est là-bas et qui fait du A à Z. Donc, c'est pas un gars qui commence le processus et qui, enfin, est terminé ici avec un agent nord-américain et l'équipe de la Ligue nationale. Il fait tout le processus au complet. Donc, il va recruter le joueur en Russie, il va le signer, il va le faire jouer dans les ligues russes, ensuite, il va l'amener en Amérique, et il va le signer avec une équipe de la Ligue nationale. Donc ça, c'est premièrement pour que les gens comprennent que lui, il est l'exception à la règle. Maintenant, moi, ça m'a été donné souvent de négocier des contrats dans la KHL parce que j'ai voulu le faire. Et j'ai eu l'opportunité de le faire. Genre, je peux vous le dire, que ce soit pour Georges, j'ai négocié des contrats pour Georges en KHL à un moment donné. Exact. Finalement, Georges a décidé de pas aller. J'ai négocié pour Guillaume Latendresse, j'ai négocié pour Pierre-Marc Bouchard, j'ai négocié pour plein de joueurs dans la KHL. Négocier avec une équipe là-bas pour envoyer un joueur, c'est hyper facile. Ils sont hyper négociables. Les montants d'argent, ils te le disent rapidement. Ils n'ont pas besoin de demander à 200 personnes une entente. Ça se négocie rapidement et ils sont capables de cracher ce qu'ils veulent. S'ils veulent un joueur, ça se règle vite. Maintenant, dans le cas de faire venir un joueur, là, on parle de ce qui arrive avec Demidov. Et tu m'as demandé un peu la chronologie. La chronologie, c'est sûr que c'est l'agent qui... L'agent, c'est lui qui est la clé dans ça. Numéro un, ce que tu dois faire, là, premièrement, tu dois absolument t'asseoir avec ton joueur et comprendre ce que lui, il veut. Et ça, je parle pas une semaine avant de signer comme Demidov a fait. Je parle de ça un an avant. C'est quoi tes intentions? Bon, t'es capable, voici ce que tu dois faire, et si c'est ton plan, je m'en vais dans cette direction à toi et ta famille. Ça, c'est un. Une fois que le joueur et toi, vous savez ce que vous voulez, la deuxième étape, c'est que tu dois te mettre en diapason avec l'équipe de la Ligue nationale qui l'a repêché, en l'occurrence les Canadiens de Montréal. Là, t'es en communication avec eux. Qu'est-ce qu'on espère faire? Qu'est-ce qu'on attend du jeune? Est-ce qu'on veut l'inclure? Quel sera son cheminement? Est-ce qu'on va vouloir le passer par la Ligue américaine? Peut-être que ça change les données. Est-ce qu'on veut le faire entrer directement à la Ligue nationale? Quand est-ce qu'on veut l'avoir? Tout ça. Une fois qu'on est sur le même diapason que les Canadiens, là, c'est la troisième. Tu ouvres une conversation avec l'équipe de la KHL. Et là, tu ouvres. On aimerait ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous en êtes? Et là, les amis, numéro 4, c'est le bras de fer qui commence. C'est le bras de fer entre ce que la KHL veut, l'équipe de la KHL veut, et ce que l'équipe est prête à faire, ou le joueur lui-même. Et là, ça se négocie. Et là, tu arrives à une entente entre les équipes. Donc, je parle en l'occurrence l'équipe de la KHL et l'équipe de la Ligue nationale pour tous les détails. Je ne veux pas rentrer dans les détails d'argent ni rien, même si je ne parlerai pas d'argent. Les détails quand, comment, de quelle manière, et ainsi de suite. Et là, naturellement, une fois que tout ça est terminé et que le joueur est libéré et que tout le monde est content et tout le monde a ce qu'il veut, ben là, tu finalises ton contrat d'entrée avec le joueur et tu l'amènes comme on a fait avec Demidov. Donc ça, les amis, c'est exactement toutes les étapes de cette négociation dans la KHL.
Ah, mais David, juste une petite parenthèse par rapport à ça.
Oui.
Pour les gens qui disent que ça l'a rien coûté pour qu'ils viennent, qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça?
Moi, je dis que ça m'a fait rire quand j'écoutais Marcine parler puis il essayait d'expliquer comme quoi que c'est écoutez, je sais pas si des gens habitent encore dans, ils vivent dans un monde de calinours. Ça n'existe pas le monde des calinours. La réalité, c'est que c'est une business, le hockey. Et moi, j'ai beaucoup de mal à croire ça. Je veux pas étaler là-dessus parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre maintenant Demidov, il est là et on est heureux pour les Canadiens de Montréal et pour les fans et pour lui. Mais la réalité, les amis, et j'en veux pas au SKA, ni à toutes les équipes. Pourquoi je me dis l'impact de Montréal, là, ils ont pas de problème à vendre leurs joueurs qui font venir dans l'académie, puis ils les font monter, puis ils les vendent par la suite. Pourquoi est-ce que le SKA aurait pas le droit de faire la même chose? Pensez-y deux secondes. Pourquoi est-ce que dans un marché, en Ligue nationale, tu repêches un joueur, mais là, il t'appartient. L'équipe qui l'a, that groomed him, qui l'a fait monter, qui a tout fait pour lui pendant 8 ans, eux, ils se retrouvent bredouilles. C'est pas évident, là. Donc, une fois que vous avez compris que c'est pas nécessairement qu'il faut que tous les côtés gagnent, là, tu comprends qu'il y a des négociations. Pour être capable de passer en arrière, de finaliser des affaires, là. Ce qui est important, c'est que la Ligue n'est pas au courant, c'est que les Canadiens ne sont pas pénalisés, c'est que tout le monde est capable de dire que non, il n'y a rien qui a été donné, c'est parfait, tout est beau. Et puis je me dis, je ne suis pas le bon Dieu, je n'étais pas dans ces négociations, peut-être que c'est effectivement ça qui est arrivé, mais à mon humble avis, c'est peut-être quelque chose de différent.
Merci David pour les précisions. Maintenant, on sait que tu l'as vu jouer, Demidov, oui. Tu l'as regardé de près et tout le reste, c'est pas la première fois que tu nous en parles. Là, les gens, ça devient du concret. Là. On regarde, oui, il va débarquer à Toronto, il va sûrement jouer le premier match lundi. De ce que tu as vu de Demidov, à quel joueur de la Ligue nationale de hockey tu le compares ou tu le comparerais et pourquoi?
Premièrement, je voudrais revenir sur une déclaration de Kuznetsov. Hein. Ouais. Kuznetsov, là, il a dit qu'Ivan Demidov, là, et lui, il l'a vu Ivan de près. Il a dit que c'est possiblement un des deux, trois mais plus grands talents qu'il a jamais vu de sa vie. Mais là, c'est passé sous le radar, cette déclaration. Mais la réalité, c'est que Kuznetsov, là, il a joué avec Ovechkin, Backstrom, avec Aho. Il a été 15 ans dans la Ligue. Il y avait toutes sortes de grandes vedettes. Et lui est capable d'aller d'une déclaration pareille d'un gars de 18 ans. Vous devez comprendre ça, cette réalité. Deuxièmement, je peux pas, c'est rare que je suis pas capable de répondre à une question. C'est impossible de trouver un joueur dans la Ligue nationale à qui on peut comparer Demidov. Demidov est complètement différent de tous les joueurs. Il est dit, il n'y a pas un joueur, il n'y a pas un sniper comme Ovechkin, il n'y a pas que ça. Il est un mélange. Donc moi, je dirais, c'est un gars qui a les fans de Hughes au New Jersey. C'est le gars qui fait de la magie comme Patrick Kane, qui est capable de faire un rien du tout, scorer un but. Ça, Hughes le fait pas, Kane le fait. Demidov fait les deux. Il y a le flair offensif de Kucherov. Il est capable de lancer, il y a un super bon tir. Il y a surtout des poignets. Il est capable, il est précis, il se place à la bonne place. Il est un passeur exceptionnel. Il est un génie. Il te fait des flashs comme Kaprizov. Génie. Donc, il a les qualités de ces quatre joueurs. Il frappe de plusieurs manières différentes. Donc, tu peux pas arriver à dire que c'est un Kaprizov. Tu peux pas dire que c'est un Kucherov. Je peux pas dire que c'est un Hughes. Je peux pas dire que c'est un Kane. Il a les qualités de ces quatre gars à part égale dans certains domaines qui fait en lui un seul Ivan Demidov.
Fait que, est-ce que, puis j'imagine que ça va être oui, mais est-ce que tu t'attends à un impact immédiat avec le Canadien, pas l'année prochaine, dès cette année?
Oui, mais attention, il sera pas le meneur de l'équipe, là. Dans le sens où il faut comprendre quelque chose, là. S'il serait arrivé, il y a 20 matchs qui n'étaient pas possibles, là, mais advenant le cas où ça serait le cas, parce que vous devez comprendre, quand un joueur y arrive, même le plus talentueux du monde, le gars a 19 ans, là. Ce qu'il doit comprendre, lui, là, il arrive avec un ou deux matchs à faire à la saison, puis il embarque dans des séries qui risquent de durer minimum 4 matchs, puis maximum 20 matchs, exemple. C'est pas long, là. Donc, en réalité, lui arrive. Il doit, un, s'acclimater au style de jeu de l'équipe. Ça, c'est un. Il doit apprendre, parce que ce qu'il a fait, lui, dans la KHL, ça n'a rien à voir avec ce que le SKA fait, c'est pas ce que les Canadiens, la manière que les Canadiens jouent. Donc, il doit apprendre le style de jeu de l'équipe, un peu comment faire. Une fois qu'il a appris ça, il doit ensuite apprendre ses coéquipiers de ligne. Qui qu'on lui a mis? Est-ce que c'est Laine? Est-ce que c'est Newhook? Est-ce que c'est Evans? C'est qui qu'on a mis avec lui? Donc, lui, il doit s'adapter à son joueur. Et la troisième chose la plus importante que les gens oublient, il faut qu'il se dégêne sur la glace et qu'il fait les jeux que son instinct lui dise de faire. Quand un jeune y arrive, il veut plaire à tout le monde. Ça a été le problème de Suzuki pendant 2 ans. Il passait sans arrêt alors qu'il devait tirer. Il faisait des jeux. Quand tu arrives dans la ligue, là, tu veux plaire à tes coéquipiers. Tu veux montrer que tu fais le bon jeu. Tu laisses ton instinct de côté. Et ça, il le fera pas en une partie. Ça va prendre quelques parties. Donc, je pense que tout ça fait en sorte que lui, il va se retrouver à avoir un impact. Oui, parce que je pense qu'il va être capable de mettre des points. Il va être capable de peut-être scorer des buts. Il va faire une différence, mais ça sera pas il sera pas le Suzuki des Canadiens, je pense, dans les prochains matchs, là.
On est rendu à près de 2500 votes sur la question qu'on a posée un peu plus tôt à l'émission, puis on faisait un clin d'œil à l'Octogone d'hier, dans le show du retour. Je suis curieux de t'entendre là-dessus, David.
Moi, j'ai hâte de l'entendre là-dessus.
Si t'avais un choix, là, pour les séries éliminatoires cette saison, tu prends quel joueur pour débuter la série entre Demidov et Ovechkin et pourquoi?
Tu parles des 4 rondes ou d'une ronde ou de quoi exactement?
Là, total? Tu commences ces séries-là,
ouais,
David.
Tu commences ces séries, ça peut être pour une.
Oublie le passé. Aujourd'hui, là, tu commences demain.
Moi, en fait, tu veux te rendre le plus loin possible, tu sais.
Oui, naturellement. Mais moi, je veux dire une série à la fois. Mais bref, d'une manière ou d'une autre, j'ai pas le choix de dire Ovechkin. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est sûr que là, on a un hype, là. On est excité, là. Je vous ai expliqué dans la dernière question que Demidov doit s'adapter à une équipe, à des joueurs et à sa liberté d'expression sur la glace. Combien de joutes ça va lui prendre de parties, je ne sais pas. Mais une chose est claire, Ovechkin, hein, c'est un gars qui est aguerri. Il a gagné la Coupe Stanley. C'est le leader de son équipe. Et principalement, ce qui va faire la différence, pourquoi je dis Ovechkin, parce qu'il est dans une meilleure situation que Demidov. Et je m'explique. Ovechkin, il est toujours sur le powerplay numéro 1. Tous les gars veulent lui remettre la rondelle pour un lancer sur réception. Il joue avec les meilleurs joueurs sur son trio. Demidov y arrive dans les playoffs, il ne fera possiblement pas partie du premier power play, certainement pas dans la première ronde. Il ne va pas être avec les meilleurs ailiers. Est-ce qu'on va lui donner Caulfield et Suzuki?
Non.
Non. Donc, est-ce qu'il a le même avantage qu'Ovechkin? Non.
David, je te pose la question, OK? Admettons que les deux joueurs jouent avec les meilleurs joueurs. Qui tu prends? Tu sais, je comprends ce que tu dis, puis tu as raison qu'il ne va pas arriver dans les mêmes dispositions qu'Ovechkin.
Dans la réalité actuelle, tu dois prendre Ovechkin pour ce que je viens d'expliquer.
Ben oui.
Maintenant,
je suis d'accord, David.
Dans un monde où tu mets avec lui Suzuki et Caulfield, je favorise Demidov.
Ben c'est ça, David, la question, parce qu'on demande si les séries commencent demain.
Si les séries commencent demain, il ne met pas avec Caulfield et Suzuki.
Non, mais David, il essaie de manipuler la question parce que lui, il a pris Demidov, puis j'ai pris Ovechkin, OK? Ben, j'ai dit,
excusez-moi, les amis, je n'étais pas au courant.
C'est correct. C'est un joueur de 39 ans contre un joueur de 19 ans, puis on a parlé, puis oui, tu sais, Ovechkin, c'est plus le joueur que c'était, puis il n'y a pas le côté physique et tout le reste. Ça reste Ovechkin, puis c'est pas un désaveu envers Demidov, mais là, il essaie de tirer à couvert de ton bord, je pense.
Ouais, mais c'est la dernière année. Non, les amis, c'est la dernière année que ça arrive, là. Ovechkin, pas d'Ovechkin, là.
Ouais.
Dans un an, je prendrai hands down Demidov devant Ovechkin.
Exact. Ouais. Je comprends.
David, l'autre question, est-ce que tu penses que maintenant, l'arrivée de Demidov peut convaincre des joueurs autonomes qui, d'habitude, signaient jamais à Montréal? Est-ce que dans le marché des joueurs autonomes, si jamais on s'intéresse à des joueurs, puis j'espère qu'on va pas se rendre là, parce que ça veut dire qu'au repêchage, il n'y a rien arrivé, puis on peut pas juste s'appuyer au 1er juillet, mais bref. Est-ce que tu penses qu'avec Demidov, on peut convaincre un joueur autonome sans compensation de joindre aux Canadiens pour jouer avec?
Ça, Georges, c'est la meilleure question qui a été posée depuis la signature de Demidov, et j'ai pas vu personne poser cette question. Vous êtes les premiers à la poser. Et moi, je vais vous répondre pour avoir négocié avec plein de joueurs, dont toi, Georges, et d'autres, qui devait signer comme UFA. Et la réalité, c'est oui à 1000%, pas à 100%, à 1000%. Un joueur, là, un UFA, qu'est-ce qu'il veut, là? Qu'est-ce qu'il veut, un UFA? Il veut être capable d'aller dans un marché où il va être valorisé, où il va être capable de mettre des points pour espérer peut-être, à moins de signer un long terme, mais un court terme de 2-3 ans, espérer être capable de re-signer un autre contrat. Et comment est-ce que ça peut arriver? Il doit mettre des points sur la table, puis il doit montrer qu'il est important.
Jouer avec des bons joueurs.
Jouer avec des bons joueurs. Et moi, j'en ai placé des joueurs. Des joueurs avec qui ça n'a pas marché, ou dans le marché, le coach a tout changé. Mais en règle générale, le joueur, je le garde numéro un, quel lui je veux m'en aller. Si tu lui dis que tu vas jouer avec des joueurs, les meilleurs joueurs de la ligue, mais tu t'en vas à Winnipeg, il y a des chances qu'ils me disent non parce que sa femme ne veut pas y aller. Mais d'abord, quel marché? On va regarder 3-4 marchés différents que lui, il veut. Là, tu commences. La deuxième affaire, tu rentres dans le line-up. Et avec qui je vais jouer? Et je le répète, et je vais le répéter encore. C'est pas vrai, cette histoire de cliché, que le DG de l'équipe te dit, non, je peux pas te dire, c'est le coach qui va décider avec qui tu joues. Ça, c'est de la bouillie pour les chats. Quand t'appelles le DG, puis il veut ton joueur UFA, il dit, tu vas jouer avec lui, on va te donner des minutes. C'est comme ça que ça marche. Il te vend sa salade. Donc, il te dit, tu vas jouer avec lui, la plupart du temps. Donc, en réalité, oui, qui ne veut pas jouer avec Demidov? T'amènes un gars dans la trentaine, un joueur de centre, que lui, il reçoit 4-5 millions, il aimerait en avoir 6 ou 7, il n'est pas capable. Et là, les Canadiens sont pas de 4, mais tu joues avec Demidov, par exemple. Tu ne veux pas signer 3-4 ans? C'est parfait pour nous. Je signe 2 ans, à 4 millions, 5 millions, exemple. Mais dans 2 ans, tu es rendu à 33-34, tu as fait 70 points ou 80 points encore à cause de Demidov, tu pourras signer un autre 3 ans, ce que tu ne pourras jamais faire ailleurs. Et en plus que les Canadiens sont une bonne équipe maintenant. Donc, tu as tous les ingrédients pour attirer ces joueurs-là sans problème.
Il y en a plusieurs qui vont boire tes paroles, David. Ils se croisent tous les doigts parce que le deuxième joueur de centre, ça va être important. Et en terminant, David, on commence à regarder vers les séries éliminatoires, même si la petite étoile n'est pas à côté. Restons dans l'hypothèse là, et le conditionnel, mais quelle équipe tu penses que le Canadien de Montréal a le plus de chances de battre en première ronde s'il fait les séries éliminatoires? Les Caps, les Leafs ou Tampa Bay?
Je l'ai dit sur mes plateformes, il y a une semaine déjà, c'est les Caps. C'est les Caps. Les Leafs là, sont dus pour gagner. Je ne veux pas décevoir les gens à Montréal. Là. Mais normalement, là, je ne m'attends pas, là, puis je le dis tout de suite. m'attends pas à voir les Canadiens en finale de la Coupe Stanley comme je l'avais prédit en 2021. Je vous le dis honnêtement. Sauf que je vois les Leafs faire un bout, ils sont peut-être capables de le faire. Donc je ne veux pas les affronter, certainement pas en première ronde avec des jeunes joueurs. Ensuite, tu as Tampa qui est plein d'expérience. Ben, Tampa non plus, c'est pas en première ronde, peut-être en deuxième tu arrives là. Les Caps, c'est pas pareil. Les Caps, là, il y avait un hype pour Ovi, les gars se sont drainés pour arriver à faire ce qu'ils ont fait. L'équipe devait pas être où ils sont. Ils ont joué au-dessus parce qu'ils ont poussé pour Ovi toute la saison. Alexis Protas, il est blessé. Qu'est-ce qui va arriver avec Thompson qui est blessé? Est-ce qu'il est vraiment blessé un peu ou va revenir? S'il joue contre Lindgren, oublie ça, Lindgren n'a aucune chance de battre les Canadiens. Les Canadiens, ils ont une qualité, les Canadiens contre les Caps. C'est que les Caps, ils ont deux qualités. Ils sont rapides et ils sont robustes. Et les Canadiens peuvent les matcher dans les deux. C'est pas toutes les équipes qui peuvent faire ça. Donc les Canadiens ont cette capacité aussi. Donc j'ai pas que ça va être facile. Ça serait certainement une longue série. Mais les Canadiens ont une chance de sortir gagnant de cette série-là.
David, encore une fois, un gros merci. On te souhaite une bonne fin de semaine et on se reparle très bientôt, mon ami.
Merci, David.
Merci. Bonne semaine, les amis.
Merci, David.
Oh boy, hein, là, ça fait rêver.